Et on s'en va maintenant un petit peu faire un peu d'histoire avec Marcel Dugas. Bonjour Marcel.
Bonjour Denis Martin, comment allez-vous?
Ça va très bien. Alors, je suis en forme, mais quand on parle de l'Eurovision, moi j'aime bien. C'est, je suis
Ah.
content de voir que ça va être maintenant chez nous. Là, j'aurais pas besoin d'aller me promener sur les internets pour voir ça. Alors oui, on va parler donc avec vous, on va parler de ce qui se trouve sous nos pieds hein, en ce moment.
Oui,
Ouais, allons-y.
on réfléchit pas souvent
Ouais.
à cette idée-là. Qu'est-ce qui se trouve, les endroits où on vit, où on travaille, où on s'amuse, qu'est-ce qui occupait ces sites-là il y a 100 ans? Il y a 150 ans, et je vais vous donner juste un exemple. Les gens, et ils sont nombreux, qui travaillent au complexe Guy Favreau sur le boulevard René Lévesque, passent leur journée sur le site du premier cimetière protestant de Montréal. Et ce n'est pas une situation unique.
Ah.
Autant du régime français et dans les premières décennies après la conquête, on a enterré des catholiques dans plusieurs différents sites de ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal. Après l'adoption d'un règlement qui interdisait l'inhumation des défunts à l'intérieur des murs de la ville, qui était fortifié à ce moment-là, Montréal va se doter d'un cimetière catholique digne de ce nom. On ouvre en 1799 le cimetière Saint-Antoine, qui couvrait la majeure partie de la place du Canada, du Square Dorchester et des rues qui délimitent ces deux places aujourd'hui. Et on s'était donné pour mission de vider tous les cimetières de la ville et de transposer les restes à Saint-Antoine. On n'a pas tout à fait réussi. On retrouve des ossements de temps à autre en creusant à travers le Vieux-Montréal, mais la majorité des catholiques enterrés à Montréal entre 1642 et 1799 se sont retrouvés à Saint-Antoine et on a construit par-dessus ces anciens cimetières-là qui étaient maintenant désaffectés. Mais le problème qu'on a dans les villes, c'est qu'on a beau installer des cimetières en dehors des zones peuplées, la civilisation finit toujours par les rattraper. Que ce soit le cimetière protestant de Guy Favreau, le cimetière Saint-Antoine ou les autres, si vous voyez où se trouve la place du Canada et le Square Dorchester par rapport au Vieux-Montréal, Saint-Antoine n'est pas demeuré un cimetière de campagne très longtemps. Il était devenu une nuisance au milieu du 19e siècle et c'est là qu'on a eu l'idée d'enterrer nos morts sur le Mont-Royal. En 1854, la fabrique de la paroisse Notre-Dame, qui était encore à ce moment-là la seule paroisse de Montréal. Il y en avait d'autres sur l'île, mais Notre-Dame couvrait le territoire de la ville-centre tout entière. Donc, la fabrique achète une terre agricole à la Côte-des-Neiges, sur les flancs de la montagne, pour y installer un nouveau cimetière qu'on appellera Notre-Dame-des-Neiges. La terre appartenait à Pierre Beaubien, médecin, homme politique, banquier, grand propriétaire terrien. D'autres terres avoisinantes seront achetées au fil des ans et le cimetière d'aujourd'hui a trois fois la superficie de la propriété achetée à Beaubien et c'est le plus grand cimetière du Canada. C'est une nommée Jane Gilroy, inconnue à part le fait qu'elle est devenue en 1855 la première personne enterrée au cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui a eu droit à cet honneur-là. Et c'est l'architecte Henri-Maurice Perrault qui a réalisé les plans, en s'inspirant notamment du Père Lachaise à Paris. Il y a pire comme modèle à
Ben oui.
prendre. Alors que son oncle, John Austell, un des architectes les plus en vue du Montréal de l'époque, il a dessiné des églises, le Grand Séminaire de Montréal, l'ancien Palais de Justice, aujourd'hui l'édifice Lucien Saunier, pour n'en nommer que quelques-uns, c'est à lui qu'on doit la chapelle et le pavillon d'accueil. Austell, c'est un Britannique, né dans la religion anglicane. Il s'est converti au catholicisme à la toute fin de sa vie pour pouvoir être inhumé dans le cimetière dessiné par son neveu et pour lequel il a signé plusieurs édifices. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, Notre-Dame-des-Neiges, c'était un cimetière catholique et on était très rigoureux là-dessus. C'est ce qui fait que dans une ville francophone catholique qui comptait quand même une grosse communauté anglo-protestante, on s'est doté de deux cimetières dos à dos sur la montagne pendant la décennie 1850. Il y a Notre-Dame-des-Neiges et il y a le cimetière du Mont-Royal. Les deux sont voisins où sont enterrés plusieurs anglo-montréalais éminents. Je pense à John Molson, de la brasserie du même nom, Henry Burks, l'homme de la bijouterie, Hugh Allen, qui était l'homme le plus riche du Canada à son époque. La légende du Canadien Howie Morenz se trouve au cimetière du Mont-Royal aussi. Et on y retrouve un certain nombre de catholiques qui ont fini leur vie en rupture de ban avec l'Église, comme l'écrivain et journaliste Jean-Charles Harvey. Il y a un petit passage entre les deux cimetières qui nous permet d'aller de l'un à l'autre tout au fond. Il n'est pas si facile à trouver d'ailleurs. L'animosité entre catholiques et protestants, c'est plus ce que c'était, mais la frontière entre les cimetières demeure. Et ça peut sembler étrange qu'on réserve une aussi grande portion de la montagne aux défunts parce que, sauf leur respect, les vivants doivent passer en premier. Mais la présence de ces cimetières-là, qui ont été créés 2 décennies avant le parc du Mont-Royal, aura contribué à protéger le lieu des spéculateurs et des développeurs. Parce qu'un cimetière, c'est pas un parc public, mais c'est accessible à tout le monde, gratuitement. On peut y déambuler autant qu'on veut. C'est pas comme si on avait fait des développements résidentiels, c'est pas comme si on avait installé un golf, un club de chasse à cour ou quoi que ce soit d'autre. C'est aussi un musée à ciel ouvert. À Notre-Dame-des-Neiges, on peut voir des monuments sculptés par plusieurs de nos grands artistes, Louis-Philippe Hébert, Émile Brunet, Alfred de la Liberté. On y retrouve aussi un obélisque en calcaire de 18 mètres de hauteur en hommage aux patriotes de 1837-1838. Et l'histoire est intéressante. Les rébellions, c'était encore récent à ce moment-là, lorsqu'on crée le cimetière, et on n'avait pas de monument qui rappelait la mémoire de ceux qui ont pris les armes. Et l'Église catholique, rappelons-le, qui s'était rangé du côté des Britanniques pendant les soulèvements, du côté de l'ordre établi, la fabrique de Notre-Dame voulait voir s'ériger quelque chose de prestigieux dans son tout nouveau cimetière, se faire un peu de publicité. On s'est dit, ben pourquoi pas un hommage aux patriotes, même si on les soutenait pas vraiment quand ça s'est passé, et on a fait don d'un terrain. Il y a eu une campagne de souscription populaire pour ramasser les fonds nécessaires. On a inauguré en grande pompe la base de l'obélisque en 1858. Les travaux ont été complétés 8 ans plus tard.
Marcel, est-ce qu'on peut dire que la... Oh, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais en tout cas, je me ferai taper sur les doigts. Je vais y aller. Mais disons que la mauvaise foi, puis ça a toujours existé, quoi.
Ah ben ouais, voilà, les considérations publicitaires des fois, et puis je disais que c'est de l'histoire assez récente, ouais. Ça faisait quand même 20 ans, les gens avaient eu le temps d'oublier suffisamment pour ne pas qu'on voit peut-être l'incongruité de la chose.
Ouais, bon, ben voilà, on continue.
Mais c'est-à-dire qu'il y a quelques patriotes qui sont enterrés au pied du monument, par contre, quand on a voulu transférer la dépouille de Jean-Olivier Chénier, tué à la bataille de Saint-Eustache de 1837, là, l'archevêque de Montréal a mis son veto. Faut dire qu'à Saint-Eustache, si on se rappelle comment ça s'était passé, les patriotes s'étaient retranchés dans l'église pour tenter de se défendre des Britanniques. L'église n'a pas tellement aimé ça. Donc, Chénier, non. C'est ce qui fait qu'on peut lire sur le monument, sous le nom de Chénier, ses restes reposent ici, alors qu'ils sont au cimetière de Saint-Eustache. La gravure s'est faite un peu prématurément. Il y a le monument funéraire de Maurice Richard, qui est très impressionnant également. Ça doit être un des plus visités de tout le cimetière. Et il y a beaucoup de gens, connus ou pas connus, qui ont voulu se doter de beaux monuments funéraires avec des statues de saints, des anges. Il y a beaucoup de belles choses à voir. Et un cimetière comme Notre-Dame-des-Neiges, ben c'est un livre d'histoire. On ne peut pas y circuler plus de 5 minutes sans tomber sur un personnage qui a marqué l'histoire du Québec et du Canada. Il y a des politiciens, politiciennes, évidemment, contemporains comme Robert Bourassa, le libéral, et Brian Mulroney, le conservateur. D'autres qui ont occupé l'avant-scène politique dans un autre siècle, comme Sir Georges-Étienne Cartier, qui était chef de file des Bleus, donc les proto-conservateurs du Canada français dans les années de la Confédération, et Sir Antoine-Aimé Dorion, qui lui était chef de file des Rouges du Canada français, donc les proto-libéraux à la même période. Aussi, inhumés à quelques secondes de marche l'un de l'autre, on retrouve 6 décennies de politique municipale montréalaise. Vous avez Camille Lienhoud, maire pendant 18 ans, entre les années 1920-1950, on l'a appelé Monsieur Montréal. Et d'autre part, celui qui lui a succédé en 1954, qui a occupé la mairie pendant 29 des 32 années suivantes, qu'on a aussi appelé Monsieur Montréal, Jean Drapeau. Les deux sont pratiquement voisins. On a aussi beaucoup de femmes importantes, Idola Saint-Jean, Thérèse Cassegrain, deux de nos plus grandes suffragettes et féministes, l'ex-ministre et publicité de la télé, Lise Payette, Jeanne Sauvé, la première femme présidente de la Chambre des communes et la première gouverneure générale du Canada. On a les fondateurs de presque tous les grands quotidiens de langue française qui ont marqué les 2 derniers siècles de l'histoire montréalaise. Pierre Péladeau du Journal de Montréal, Henri Bourassa du Devoir, Presley Berthiaume de La Presse et les autres. Et au niveau artistique, littéralement tous les arts sont représentés dans le cimetière. Si on cherche un peu, on va en trouver. Émile Néligan, poète de génie qui a connu une vie assez malheureuse. André Mathieu, pianiste de génie qui a connu une vie assez malheureuse. On a Olivier Guimond et Denis Drouin, les deux compères, les deux stars du fameux sketch du soldat qui fait sa ronde à Westmount au Bye Bye 1970, entre autres. On a Claude Léveillé, La Bolduc, Jean-Paul Riopel, Gracien Gélinas, Gilles Carle. Je pourrais continuer mon énumération jusqu'à la fin de l'émission, tellement il y a de noms connus, tellement de gens qui ont eu une résonance dans notre histoire. Mais je considère que ça vaut vraiment le détour de passer par là. Si on en a la capacité, par une belle journée d'été, oui. On en a des belles journées qui s'en viennent au mois de septembre, une petite balade au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ça vaut vraiment la peine. Moi, je le recommande fortement.
Merci, Dugon. C'est rendu à la fin de la demi-heure. C'est quand même pas si mal. C'est beau. Merci beaucoup, Marcel.
Merci à vous.
À la prochaine. Nous, on revient après la pause.